Vous êtes sur RTL.
Marina Ciampi est découverte dénudée sur son lit. Elle a un sac poubelle très fin bleu sur la tête. Et autour de son cou, elle a un cordon de sèche-cheveux.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure du crime où nous allons raconter ce soir l'histoire de deux crimes. Les morts de deux femmes qui ne se connaissaient pas et n'avaient jamais fait parler d'elles. Deux meurtres sauvages et gratuits à Marseille à 6 ans d'intervalle. Un auteur immédiatement surnommé le tueur à la pince à linge en raison de ces fameuses pinces qu'il a laissées derrière lui. Deux morts qui auraient pu rester à jamais impunis s'il n'y avait pas eu l'ADN. Ce sacro-saint ADN qui a permis de faire le lien entre ces affaires. Une trace génétique qui va conduire à un homme, à un nom et à un visage. Celui d'un ancien gendarme réserviste, secouriste et fonctionnaire à la ville de Marseille, un certain Abdelkader Amrani, aujourd'hui âgé de 49 ans, qui sur Internet, sur les sites de rencontres, avait pour pseudonyme Cruchot. Comme le gendarme de Saint-Tropez, immortalisé par Louis de Funès. Si ce détail peut prêter à sourire et si Amrani a été reconnu coupable, condamné définitivement par la justice devant deux cours d'assises, 30 ans de réclusion à chaque fois, il continue à clamer son innocence, son avocat. Et c'est pour cela que nous revenons ce soir sur cette affaire, s'apprête à déposer une demande de révision, trop d'incohérences selon lui. Et surtout, cette question centrale, une même trace ADN sur deux scènes de crime, est-elle une preuve qui fait d'un homme un coupable? Ce sera l'enjeu de cette procédure de révision qui intervient 3 ans après la clôture du dossier et 14 ans après le premier meurtre qui est imputé à celui qui se faisait surnommer Cruchot. Le doute peut-il profiter aux condamnés? Nous essaierons ce soir avec nos invités de répondre à cette interrogation. Les deux morts du tueur à la pince à linge, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. À tout de suite sur RTL.
20h, 21h,
l'heure du crime sur RTL.
20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Heure du crime consacrée ce soir au tueur à la pince à linge. Une femme retrouvée morte à Marseille. Il va falloir du temps pour rapprocher cette affaire d'un autre crime. Mais pour le moment, le meurtrier n'a pas laissé beaucoup d'indices. Ce 29 juin 2012, les marins-pompiers de Marseille tambourinent à la porte d'un petit appartement. Au 7e étage de l'une des tours du Trianon, une résidence des quartiers nord de la ville. Pas de réponse. C'est Chantal, la fille de la locataire Marina Ciampi, une veuve de 52 ans, une rousse aux cheveux courts, qui a alerté les secours et la police. Elle n'a plus de nouvelles de sa mère depuis 48 heures et cela ne lui ressemble pas. Les deux femmes sont toujours pendues au téléphone. Les pompiers passent par le balcon et découvrent aussitôt la disparue. Elle est allongée sur son lit, dénudée. Elle porte un sac plastique sur la tête, solidement retenu par un cordon de sèche-cheveux qui a été passé 5 fois autour de son cou. Les pompiers notent aussi une entaille au poignet gauche et une grande tache de sang séché. Une pince à linge est posée sur le lit. Marina Ciampi est morte. Les enquêteurs de la PJ marseillaise prennent le relais. Ils notent que l'appartement a été fouillé même si Marina Ciampi ne possédait pas d'objet de valeur, n'avait pas beaucoup d'argent, veuve d'un modeste employé de la RTM, la Régie des Transports Marseillais. Le portefeuille de la victime est introuvable, tout comme quelques bijoux, et beaucoup plus curieux, l'unité centrale, le disque dur de l'ordinateur qui a été subtilisé, comme si on avait voulu faire disparaître des images, la trace d'une connexion, un quelconque échange. Malgré le désordre qui règne dans l'appartement, la porte d'entrée est intacte, pas de trace d'effraction. La locataire a ouvert la porte à son tueur, sans doute le connaissait-elle. La fille de Marina Ciampi est interrogée. Elle explique que sa mère n'avait pas d'ennemis. C'était une femme plutôt méfiante qui voyait peu de monde. Même s'il est vrai elle souffrait de solitude. Elle avait parfois envie de refaire sa vie et de retrouver le grand amour. C'est pour cela qu'elle s'était inscrite puis désinscrite sur le site de rencontre Badou sur Internet, une messagerie électronique pour cœur solitaire, l'espoir de trouver l'âme sœur. La fille de la victime est également questionnée sur la présence incongrue de cette pince à linge sur les draps. Elle n'a aucune explication. Maître Agnès Talla, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'avocate de la famille Ciampi et plus précisément l'avocate du fils de la victime. Parlez-nous, Maître Talla, de la description de cette scène de crime qui, je crois, vous a beaucoup marqué quand vous en avez pris connaissance dans le dossier d'instruction.
Marina Ciampi est découverte d'abord par les marins-pompiers qui vont pénétrer par le balcon de l'appartement, en pénétrant dans l'appartement du dessous. Et elle est donc dénudée sur son lit. Elle a un sac poubelle de salle de bain très fin bleu sur la tête. Et autour de son cou, elle a un cordon de sèche-cheveux qui est enroulé autour de son cou. À l'autopsie, on va déterminer qu'en réalité, ni le sac poubelle, ni le cordon ne sont l'origine du décès, mais qu'en réalité, elle a été étranglée puisqu'il y a une fracture de l'os hyoïde. Et que visiblement, le sac poubelle et le cordon ont été positionnés postérieurement à son décès.
Alors, elle a été étranglée, il y a une fracture, c'est ce que vous nous dites, Maître Talla. Je suppose, Maître, que la famille de la victime est évidemment abasourdie, choquée par ce que les policiers vont leur apporter.
Alors, pour ce qui est effectivement de la famille Ciampi, pour ce qui est du fils de Madame Ciampi, c'est un dossier qui est pour lui extrêmement difficile et sur lequel il n'a jamais voulu s'épancher ou en tout état de cause se présenter aux audiences, etc. Et c'est vrai que intellectuellement, mais aussi humainement, c'est extrêmement difficile à vivre.
Maître Patrice Reviron, je m'adresse à vous désormais. Vous êtes ce soir dans le studio de l'heure du crime et je vous en remercie. Vous êtes l'avocat d'Abdelkader Amrani, l'homme qui sera bientôt confondu et condamné dans ce dossier. On va longuement et très longuement en reparler. Un mot tout de même, Maître, sur ce vol informatique. Un tueur qui repart avec le disque dur d'un ordinateur, c'est forcément pour qu'on ne trouve pas sa trace.
Oui, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on ne retrouve pas sa trace, sans doute. Je ne pense pas que cet ordinateur ait une valeur suffisante pour qu'on s'y intéresse pour autre chose. Mais il y a pas mal de personnes qui auraient pu avoir intérêt à faire disparaître cet ordinateur.
C'est des personnes avec qui la victime était en contact, c'est ça que...
Absolument. Il y a plusieurs personnes qui étaient en contact récemment avec Marina Ciampi, dont son ancien petit ami, Jean-Michel.
On va évidemment l'évoquer un peu plus tard dans l'heure du crime. Donc c'est tout ce faisceau d'hommes qu'elle aurait pu rencontrer, qui aurait eu un intérêt, selon vous, à faire disparaître cette mémoire vive de l'ordinateur.
On peut l'imaginer, en tout cas, moi je dis très clairement que celui que je représente ici, Abdelkader Amrani, le dit encore, malgré sa condamnation, il est innocent. Et il se battra jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui, lorsque je suis allé le rencontrer, par exemple la semaine dernière, on a discuté pendant plus de 2 heures, vient avec un paquet de documents, il étudie chaque jour son dossier, il est complètement obsédé par ce dossier et il clame son innocence.
Abdelkader Amrani, qui effectivement fait partie aussi des personnes qui étaient en contact avec la victime. La police retient donc en priorité la piste internet, celle du site de rencontre. C'est de loin, d'après ces policiers, la plus prometteuse et effectivement, elle va tenir beaucoup de ses promesses. Le tueur à la pince à linge, une ou plusieurs victimes, c'est l'enquête de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Heure 21h,
l'heure du crime sur RTL.
L'heure du crime ce soir avec les meurtres du tueur à la pince à linge à Marseille. Une première victime retrouvée. Les policiers veulent savoir avec qui elle était en contact récemment sur une messagerie internet. Chantal, la fille de la victime, s'avère d'une aide précieuse pour les enquêteurs de la PJ marseillaise. Au sujet de l'ordinateur dont l'unité centrale a été emportée par le tueur, sa mère s'en servait notamment pour consulter Badou, un site de rencontre, espérant y trouver le nouvel homme de sa vie. Ne connaissant pas grand-chose à l'informatique, elle avait demandé à sa fille de l'inscrire. Deux jours avant de mourir, Marina Ciampi avait toutefois envoyé un SMS à sa fille, lui demandant avec insistance de la désabonner. « J'en ai assez de Badou », écrit la veuve. « Tu peux me désinscrire de ce site. Fais-le vite, s'il te plaît. Une demande urgente. » Avec le code d'accès au site, les policiers remontent les contacts de la victime. Il n'en existe pas des dizaines. En tout et pour tout, trois hommes semblent avoir conversé et avoir eu une liaison avec Marina Ciampi. On y retrouve tout d'abord un certain Jean-Michel. Puis, elle a brièvement côtoyé un Clément. Le troisième, le plus récent, a un pseudonyme pour le moins cocasse, Cruchot. Comme le gendarme de Saint-Tropez, Ludovic Cruchot, interprété au cinéma par Louis de Funès. Cet homme-là paraît très insistant avec Marina Ciampi. Quelques messages explicites avec des questions du genre « Tu te meutras nous ?» La veuve ne semble pas très à l'aise, sans avec ce Cruchot n'est pas tout à fait correct et elle a envie de refuser un rendez-vous. Le 27 juin, le jour justement du meurtre, elle invente alors un prétexte. « Désolé, mon ex a repris contact avec moi ». Les policiers vont identifier assez facilement qui se cache derrière le pseudonyme Cruchot. Presque un gendarme, un réserviste de la gendarmerie. Il s'appelle Abdelkader Amrani, 41 ans, employé à la ville de Marseille où il est affecté à la protection civile. Il est inconnu de la justice et n'a jamais fait parler de lui. Les enquêteurs décident de ne pas l'interpeller tout de suite. Ils vont mener une enquête discrète sur cet homme domicilié quartier des Espargades à Riens, dans le Var. Maître Patrice Reviron, vous êtes l'avocat de Abdelkader Amrani, cet homme qui semble donc intéresser à ce moment-là de très près les enquêteurs. Justement, qui est-il cet Abdelkader Amrani à ce moment-là?
C'est quelqu'un de très discret qui a une vie sentimentale que l'on pourrait croire rangée puisqu'il a une compagne et deux enfants, mais ça va très mal dans son couple. Et en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de s'oxygéner un peu, effectivement, en allant sur des sites de rencontres. Il a rencontré plusieurs jeunes femmes, dont effectivement Marina Ciampi, qui est peut-être un peu plus âgée, mais avec qui il avait commencé à discuter, tout en précisant que la discussion s'est très vite enflammée, mais aussi de la part de Marina, hein, qui était...
C'est-à-dire
qu'en fait, c'est elle qui l'a provoqué sur ce terrain-là, la première. On a en fait toutes les conversations qu'ils ont eues ensemble sur ce site grâce aux historiques. Et on va dire qu'il y a eu un langage très cru assez rapidement avec ce Cruchot.
Entre les deux.
Entre les deux, absolument.
Et il va la voir à plusieurs reprises. Il va y avoir une relation suivie.
En réalité, il va y avoir des contacts répétés sur le site, ensuite des contacts téléphoniques, et ils ne se sont vus qu'une seule fois.
Une seule fois.
Et toute la question est de savoir s'ils se sont vus peu avant qu'elle meure ou deux jours avant.
En quoi consiste cette fameuse enquête très discrète des policiers? Parce qu'ils vont pas, comme je le disais, pas tout de suite l'interpeller. Ils vont le surveiller, etc. Ils vont faire le tour de ses connaissances, de ses amis.
En fait, ils vont essentiellement le placer sur écoute, placer sa compagne sur écoute et lui-même, pour essayer de voir s'ils peuvent avoir des arguments qui tendraient vers une éventuelle culpabilité. C'est la raison pour laquelle on ne va l'interpeller que 4 mois après les faits.
Et que donnent ces écoutes?
Pas grand-chose, à part qu'on comprend bien que sa relation de couple fonctionne très mal.
C'est-à-dire qu'il va voir ailleurs, c'est un homme assez volage.
Non, c'est pas tellement un homme volage, hein, c'est plutôt quelqu'un de très discret mais et qui fantasme beaucoup mais qui fait pas beaucoup de choses, mais on a des conversations effectivement où c'est un couple qui s'engueule, c'est un couple qui va mal.
Est-ce qu'il a déjà eu affaire à la justice et à la police à Marny?
Jamais. Absolument pas. C'est quelqu'un qui, au contraire, respecte beaucoup l'ordre, qui est gendarme réserviste. C'est une part très importante de sa vie. Il se consacre beaucoup à aider les autres. Et dans, à la fois dans son métier et dans sa carrière de gendarme réserviste, c'est quelqu'un qui, avant tout, cherche à servir les autres.
Que fait-il à Marseille, exactement?
À Marseille, il travaille à la sécurité civile. Donc, c'est un peu l'équivalent des pompiers. Bon, c'est des gens qui interviennent un peu partout, qui sécurisent des lieux, par exemple, comme le soir où on considère qu'il a pu participer à ces faits. En fait, il travaillait à sécuriser un spectacle.
Et que disent ses collègues de cet homme?
Alors, on a pu tout dire. C'est-à-dire qu'en réalité, vous savez, quand on veut entendre du mal sur quelqu'un, on va se tourner vers des gens qui sont aptes à vous critiquer facilement, ce qui est le cas. Il y a des gens qui l'aimaient pas trop, puis il y a des gens qui l'appréciaient. Et puis il y a des gens aussi qui ont regretté un peu les propos qu'ils ont pu tenir dans le dossier. Mais en gros, c'est M. Amrani, c'est quelqu'un qui était très discret et peut-être un peu trop. Il se mélangeait pas assez avec les autres.
Très discret, un peu trop. Est-ce que sur ses écoutes, il apparaît qu'il se sent surveillé ou épié?
Non, pas du tout.
Est-ce qu'il montre une inquiétude à un moment donné?
Absolument pas.
Et est-ce qu'il a fait part déjà de ses visites dans Marseille, etc., à son entourage, notamment pour aider des personnes, etc.? Il a des sorties un peu compliquées. Il a un emploi du temps qui est souvent un peu compliqué, Amrani.
Il a un emploi du temps compliqué pour une raison simple, c'est qu'il habite dans le Var et il travaille à Marseille. C'est-à-dire qu'en fait, l'éloignement fait qu'il a de toute façon un emploi du temps compliqué et il doit aussi gérer ses enfants.
Le fait est, c'est que le 9 octobre 2012, Abdelkader Amrani est interpellé chez lui. Il va devoir raconter ce qu'il sait sur la mort de Marina Ciampi, mais aussi très vite expliquer pourquoi on retrouve sa trace ADN sur une autre scène de crime. Le tueur à la pince à linge serait-il un tueur en série? La suite dans l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Ce soir, dans l'heure du crime, les meurtres du tueur à la pince à linge à Marseille. Un suspect est interpellé pour celui d'une veuve de 52 ans. Son profil est pour le moins déconcertant. Face aux enquêteurs, Abdelkader Amrani nie les faits qui lui sont reprochés. Le meurtre de Marina Ciampi à la cité du Trianon, dans les quartiers nord de Marseille. Oui, il était bien en contact avec elle sur un site de rencontre. Ils ont eu un début de relation. Le vendredi 22 juin, Marina l'a invité chez lui. Ils ont couché ensemble. En revanche, il n'était pas chez elle le 27, le jour du crime. Il était à son travail. En se penchant sur la vie d'Abdelkader Amrani, les policiers se sont aperçus qu'il ne disait peut-être pas toujours la vérité, ou dans tous les cas qu'il avait un penchant pour le secret, la dissimulation, une espèce de double vie. Même ses propres parents, avant cette histoire, auraient ignoré qu'il avait une compagne et deux enfants de 10 et 6 ans. Amrani est actif sur de nombreux sites de rencontres, plus ou moins libertins, utilisant le sobriquet Cruchot ou encore Raptor 123. Il s'y présente, mais c'est de bonne guerre, sur ses messageries, sous un profil de fonctionnaire célibataire et sans enfant. Dans la chambre mise à sa disposition par la protection civile, un authentique capharnaüm pour le moins crasseux, la police a saisi des clés USB bourrées de photos porno. Son ordinateur abonde de connexions sur des sites de rencontres, des exhibitions dénudées, des scènes de X. Avec cette constante, Amrani semble obsédé par les femmes mûres, 50 ans et plus, et même parfois beaucoup plus. L'ADN de Abdelkader Amrani correspond à celui trouvé sur la scène de crime. Présent à divers endroits de l'appartement, sauf curieusement sur la cordelette du sèche-cheveux qui a servi à enserrer le cou de la victime. C'est un autre ADN masculin qui s'y trouve. Le suspect dément toute implication, mais il n'échappe pas à la mise en examen. Il est écroué pour le meurtre de Marina Ciampi. Maître Patrice Reviron, du barreau d'Aix-en-Provence, vous êtes l'avocat d'Abdelkader Amrani. Votre client à ce moment-là est donc mis en examen. Il est écroué. On a dit qu'il démentait absolument tout ce qui lui était reproché. Il nie. Qu'est-ce qu'il dit sur son emploi du temps le jour du crime, ce 27 juin ?
Alors c'est compliqué pour lui parce qu'on vient l'interroger 4 mois après les faits. Donc c'est toujours difficile, hein, surtout quand on est dans des conditions de garde à vue, de se rappeler de tout. Mais on a réussi en fait à retracer son emploi du temps grâce notamment à ses appels téléphoniques qui permettent de tracer en fait tout ce qu'il a pu faire dans la journée. Et c'est une journée qui initialement avait été programmée une semaine avant pour rencontrer Marina Ciampi. Mais en réalité, il s'était rencontré le lundi matin. Et il y avait toujours cette hypothèse, cette possibilité de se revoir le mercredi, mais sans plus, puisque Marina, manifestement, n'avait plus très envie. Et surtout, elle était en contact en parallèle avec Jean-Michel, qui était son ancien compagnon.
Elle lui avait dit d'ailleurs qu'elle ne voulait pas le voir. Elle lui dit dans un message, hein, elle dit à Abdelkader,
oui, c'est-à-dire que...
pas question que tu viennes, puisque j'ai renoué avec mon ex.
C'est ça.
Voilà ce qu'elle lui dit. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il va prouver, démontrer? Il était ailleurs,
il était... Lui, en fait, il a accompli des démarches administratives. Il reprenait son travail à 19h. Et c'est très important, d'ailleurs, cet horaire-là. On pourra éventuellement en reparler, parce que par rapport à la datation de la mort, il y a vraiment des calculs très étranges qui ont été faits dans ce dossier. Mais toujours est-il que lui, on sait à peu près tout ce qu'il a fait. Et la question qui était posée, c'est de savoir s'il a pu rencontrer Marina cet après-midi-là. Lui, il dit que non. Les enquêteurs disent que oui.
Les enquêteurs disent que oui. Mais ils ne prouvent pas formellement qu'ils ne pouvaient pas être là à ce moment-là.
Alors, c'est impossible de prouver qu'on n'est pas là. Par contre, démontrer qu'il l'a vu le lundi matin, ça c'est quelque chose qu'on a pu faire dans le dossier. Et surtout, démontrer que quand il s'en va et quand il quitte la proximité du quartier où vit Marina, Marina est encore en vie, elle lui envoie un SMS à 18h40.
Donc il y a cet emploi du temps qui reste flou. Alors, deuxième question d'importance, évidemment, parce que c'est l'axe central même de ce dossier, c'est l'ADN. Comment expliquer, Maître Reviron, comment expliquer ces traces ADN qui appartiennent à votre client, Abdelkader Amrani, sous les ongles de la victime?
Alors, c'est relativement simple. Quand on a un contact intime avec quelqu'un, il y a des études qui permettent de montrer que dans certains cas, on peut se retrouver avec de l'ADN qui va rester un jour, deux jours, peut-être même plus. Et il y a notamment une étude, cette fois-ci à l'inverse, qui a montré que un auteur de faits criminels qui a fui pendant 48 heures, on pouvait retrouver l'ADN de sa victime 48 heures après, sous ses ongles, alors que lui n'était pas mort, hein, il était en vie, il avait continué d'être actif. Donc en réalité, la difficulté de l'ADN, c'est de bien interpréter les éléments que l'on a. Et dans ce dossier, ce qu'on retrouve essentiellement, c'est de l'ADN en très faible quantité, puisqu'on est obligé de faire ce qu'on appelle le STRY, c'est-à-dire de regarder la fraction masculine de l'ADN dans un mélange où majoritairement il y a un ADN féminin et très très minoritairement un ADN masculin. Et donc on va retrouver essentiellement du STRY dans ce dossier à plusieurs endroits, mais qui, à mon sens, démontre que Abdelkader Amrani, quand il quitte Marina Ciampi, elle est en vie.
Ce que vous dites, c'est que cet ADN, il provient finalement d'une étreinte qu'il a eue avec cette maîtresse, c'est ça?
Oui, il y a eu un rapprochement physique entre eux, c'est reconnu. Et ensuite, on nous dit que c'est impossible. C'est, en fait, le raisonnement qui a été tenu par la cour d'assises, c'est que c'est impossible que cet ADN reste sous les ongles aussi longtemps. Or, il y a des études qui démontrent le contraire.
Donc ça, c'est une bataille d'experts,
hein, oui,
que vous allez sans doute utiliser lorsque vous présentez.
C'est un des axes. Alors, une révision, ça prend très longtemps.
Bien sûr,
mais ça va prendre des mois, voire des années. Et effectivement, c'est un des deux. Enfin, il y a deux axes essentiels par rapport aux preuves scientifiques. C'est la datation de la mort et l'ADN.
Et l'ADN. Et puis j'ai encore une question quand même, parce que il a un profil très troublant, Amrani. Ça prêche pas en sa faveur. Hein, ces sites rencontrent cette espèce d'obsession pornographique en permanence.
Alors, l'expert informatique a dit que, parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, bon, on retrouve énormément de photographies, c'est simplement des consultations de sites et ça laisse des petites photographies sur l'ordinateur. Je lui ai dit, si on expertise votre ordinateur, qu'est-ce qu'on retrouvera? Il dit, je préférerais qu'on le fasse pas.
Donc, selon vous, ce n'est pas concluant aussi?
Non, pas du tout.
Cette espèce d'obsession et de...
Pas du tout, c'est pas plus une obsession que beaucoup de gens qui nous écoutent.
Et est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui se sont plaintes de lui, qui auraient pu se plaindre de lui, des personnes avec qui il était en contact sur ses messageries?
Alors justement, non. Et il y a une jeune femme qui est venue témoigner, qui l'a rencontrée grâce à ce site de rencontre, et qui disait que tout s'était très bien passé.
L'ADN, donc, toujours et encore, n'a pas fini de parler. Celui d'Abdelkader Amrani figure sur la scène de crime de Marina Ciampi. Mais il va matcher avec un autre meurtre, inexpliqué, toujours à Marseille, celui d'une femme de 68 ans, retrouvée avec une pince à linge sur le nez. Le tueur à la pince à linge, une et bientôt deux victimes, c'est au programme de l'heure du crime, ce soir, à tout de suite sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime consacrée ce soir au tueur à la pince à linge. À Marseille, un suspect est écroué pour un premier meurtre, celui d'une femme de 52 ans. Son ADN va apparaître sur une autre scène de crime, celui d'une femme de 68 ans. L'empreinte ADN d'Abdelkader Amrani est versée automatiquement au fichier des délinquants sexuels et réserve une surprise. Cet ADN correspond à un autre ADN jamais identifié jusque-là et prélevé sur une précédente scène de crime. 6 ans auparavant, dans un quartier envahi par le trafic de drogue et la délinquance, la cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de Marseille. Ce 23 avril 2006, la fille d'Henriette Bernardi, 68 ans, se présente au commissariat d'arrondissement pour indiquer que sa mère est aux abonnés absentes depuis plus d'un mois. Elle ne répond pas au téléphone et ne donne pas de signe de vie. La police se rend au 3e étage d'une HLM, la porte du studio est close, personne ne se manifeste après les coups de sonnette. Les policiers entrent par le balcon. Henriette Bernardi repose au sol. À moitié dénudée, une paire de collants obture sa bouche, un bâillon sur les lèvres. Une pince à linge jaune sur le nez. L'ADN, qui correspond désormais à celui d'Amrani, est retrouvé ici encore sous les ongles de la victime. À l'époque, faute d'autres indices plus concluants, l'affaire est classée. La conclusion est même surprenante, il s'agirait d'un suicide. Maître Stalla, vous êtes l'avocate de la famille Bernardi et puis aussi l'avocate de la famille Ciampi. Je m'arrête avec vous une minute. Après la découverte du meurtre de Marina Ciampi, a-t-on fait un rapprochement avec celui ancien, certes, mais très similaire de celui d'Henriette Bernardi, avec ce détail, cette pince à linge ?
Non, on fait pas du tout le rapprochement immédiatement parce que d'abord, entre 2012 et 2006, il s'est écoulé un certain nombre d'années et on fait le rapprochement entre les deux faits parce que on va dans l'enquête Ciampi faire un prélèvement salivaire avec son accord à l'accusé, enfin aux mises en cause, et on va trouver effectivement une concordance entre les prélèvements faits sur les ongles de la victime, la culotte, etc. Et que ultérieurement, les empreintes génétiques sont envoyées à un fichier qui s'appelle le FNAEG, il va y avoir un rapprochement et on va découvrir à ce moment-là que l'empreinte génétique de Kader va être la même que celle retrouvée sous les ongles de Madame Henriette Bernardi.
Avec cette correspondance ADN et le fait donc qu'une pince à linge a été retrouvée dans les deux appartements, les enquêteurs voient leur conviction renforcée. Henriette Bernardi et Marina Ciampi ont été tuées par un seul et même homme. Le seul profil qui correspond et le seul nom qui apparaît alors est celui d'Abdelkader Amrani. Pas de doute pour le juge d'instruction. Deuxième mise en examen pour meurtre. Maître Patrice Reviron, vous êtes l'avocat d'Abdelkader Amrani, celui qui est à ce moment-là dans l'enquête le principal suspect de ces deux meurtres. Comment, alors, nouvelle question, comment Amrani explique que son ADN soit retrouvé une nouvelle fois sous les ongles d'Henriette Bernardi, ce premier meurtre qu'on a oublié?
Alors, c'est sûr, ou sous les ongles. Et en fait, l'explication est très simple. Ce qui aurait été inquiétant, c'est si M. Amrani n'avait pas d'explication. Il en a une. En plus d'être gendarme réserviste, il faisait régulièrement le recensement. C'est un... un exercice que l'on fait régulièrement pour compter la population. Et donc, on prend des quartiers, on détermine un quartier et on va recenser, par échantillonnage d'un quartier, toutes les personnes qui y habitent. C'est ce que faisait M. Amrani. Et donc, il était amené dans un quartier très difficile.
Oui,
personne ne voulait travailler. Il était amené à rentrer parfois à l'intérieur du domicile des gens. Normalement, il dépose une enveloppe avec des documents à remplir. Mais il y a des personnes qui soit écrivent mal, soit sont un peu âgées, qui ont besoin d'être aidées. Et a priori, lui ne s'en rappelle pas, bien sûr, 6 ans après, mais a priori, c'est ce qu'il a dû faire, être en contact avec cette dame pour l'aider à remplir le recensement, d'autant que la période estimée de sa mort, on la retrouve 2 mois après sa mort, mais la période estimée de sa mort correspond exactement au moment où il se retrouvait à faire le recensement. Donc il a une explication tout à fait logique pour expliquer pourquoi il a pu être en contact avec cette dame. Si elle a été tuée peu de temps après qu'il ait eu ce contact, on peut retrouver son ADN avec le contact physique, ne serait-ce que de se serrer la main. Il a pu laisser son ADN, on ne sait pas si c'est sur ou sous les ongles, encore une fois, qui peut se retrouver sans pour autant qu'il ait participé au crime.
Vous pensez qu'une seule poignée de main permet le dépôt d'une trace ADN sous des ongles?
Alors, c'est pas sous, hein, c'est encore une fois sur ou sous, c'est important. Et oui, bien sûr, si vous êtes vous-même, alors après on peut imaginer plein de scénarios, mais à 6 ans d'intervalle, on peut pas être concret. Mais si vous-même vous êtes transpirant, si vous avez subi une agression, parce que dans ce quartier, il a subi à plusieurs reprises des agressions, vous pouvez soit avoir du sang sur vous, soit ne serait-ce qu'en transpirant de façon intense, déposer facilement de grandes quantités. On n'est pas égaux face aux dons qu'on peut faire aux autres de notre ADN.
Est-ce qu'il a une preuve, Amrani, de cette rencontre, de cette visite ce
Lui, il n'a pas de preuve.
Hein. Ou un témoin.
Voilà, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de témoin. La seule chose qu'il peut dire, c'est que oui, ce n'est pas anormal qu'on retrouve un contact physique entre lui et cette dame.
Abdelkader Amrani nie farouchement les deux meurtres, mais la justice ne l'entend pas du tout de cette oreille. Il est renvoyé devant une cour d'assises. Le meurtrier à la pince à linge, 2 femmes tuées, 1 seul suspect. C'est l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Heure du crime, consacrée ce soir au tueur à la pince à linge. 2 meurtres de femmes, 2 scénarios très ressemblants et en même ADN masculin retrouvé sur les lieux. Abdelkader Amrani va donc être jugé. Le 24 novembre 2016, Abdelkader Amrani comparé devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Cet homme, père de famille, fonctionnaire au sein de la protection civile à Marseille, n'a jamais cessé de clamer son innocence, et ce, en dépit des charges qui paraissent accablantes. Son ADN sous les ongles des 2 femmes tuées à 6 ans d'intervalle, un profil d'obsédé sexuel et de dissimulateur qui ne prêche pas en sa faveur. Malgré ces éléments, sa défense va tout faire pour souligner les contradictions, les approximations qui foisonneraient selon elle, dans le dossier. L'ancien petit ami de Marina Ciampi, convoqué comme témoin, est passé sur le grill. Lui aussi a rencontré la victime grâce à un site de rencontre. Il s'était vu pendant 1 an, puis Marina, lassée de voir cet homme marié rester avec son épouse, l'avait congédié. Si Jean-Michel intéresse beaucoup la défense de l'accusé, c'est qu'il s'est manifesté avec insistance avant la mort de Marina Ciampi. 576 contacts exactement entre le 18 et le 27 juin 2012. Et puis aussi parce que son ADN est celui relevé sur le cordon du sèche-cheveux utilisé pour serrer le cou. Jean-Michel expliquera tout simplement avoir habité chez la victime et s'être souvent servi de ce fameux sèche-cheveux. Il y a peut-être des doutes, mais les jurés les balaient. Après 5 jours de débat, la cour condamne Amrani à 30 ans de prison. La préméditation n'est pas retenue. Le verdict, 30 ans, sera confirmé lors d'un procès en appel. Amrani est considéré comme le seul coupable des meurtres de Henriette Bernardi et Marina Ciampi. Maître Patrice Reviron, c'est vous au procès qui avez soulevé plusieurs points qui ne cadrent pas, selon vous, avec les charges de l'accusation. Puis vous êtes beaucoup intéressé à ce témoin, Jean-Michel, qui a connu Marina Ciampi. Pourquoi autant d'attention sur cet emploi du temps et sur cet homme ?
Autant d'attention parce que dans un dossier où on parle d'ADN, son ADN pointe quand même de façon importante vers une responsabilité. D'abord, on retrouve son ADN sur un sèche-cheveux. Alors, il a pu le manipuler, mais enfin, il est chauve, hein, il s'en est pas servi. Mais il a pu effectivement le manipuler, mais il n'est plus revenu dans l'appartement de Marina depuis 3 mois. Donc, je peux pas dire que c'est impossible, mais c'est improbable. Et puis, on retrouve aussi son ADN sur la fameuse pince à linge que l'on va retrouver sur le lit de Marina Ciampi. Ça aussi, c'est de façon certaine. Et puis, la question s'est posée, dans le sac plastique qui est sur la tête de Marina, il y a une trace d'ADN masculine qui n'est absolument pas celle d'Amrani et qui est compatible avec celle de Jean-Michel. Ça fait beaucoup. Et surtout, quand on interroge Jean-Michel, qui n'a jamais été placé en garde à vue, parce qu'on avait Amrani dans le collimateur, on va simplement lui poser la question, est-ce qu'il a repris contact avec Marina ? Comment ça se passe ? Et donc, en réalité, il va mentir. D'abord, il va dire que il avait un emploi du temps qui s'avérera être faux. Mais surtout, il dira qu'il a juste repris contact, qu'ils se sont échangés quelques banalités avec Marina. Or, comme vous l'avez rappelé, sur une dizaine de jours, juste avant les faits, il y a eu 580 contacts, des SMS, des appels téléphoniques. Et surtout, le jour où on considère que les faits ont pu se produire dans la soirée pour moi et dans l'après-midi pour l'accusation, eh bien, à 5h40 du matin, ils sont au téléphone pendant une dizaine de minutes. Ils s'envoient 25 SMS entre Marina et ce monsieur. Et lui va dire qu'il s'est changé des banalités. Ça, on ne peut pas y croire.
Ce que vous dites, c'est finalement, là, c'est la piste du deuxième homme, hein, si je vous suis. Il y a quand même quelque chose qui cloche dans votre démonstration, c'est qu'il n'y a aucune trace de ce fameux Jean-Michel. Lors du premier crime, celui d'Henriette Bernardi, là, on ne trouve aucune trace de son ADN.
Non, parce que ça n'a rien à voir. L'idée, en fait, c'est qu'à partir du moment où on considère que M. Amrani est coupable des faits contre Marina Ciampi, le simple fait de trouver son ADN, parce qu'il n'y a que ça en réalité dans ce dossier, vaut culpabilité. Donc en fait, c'est par contagion que l'on raisonne comme ça en ce qui le concerne. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que concernant Jean-Michel, il y a énormément d'éléments qui pointent, et surtout, je vous ai rappelé qu'il y avait énormément de contacts téléphoniques qui s'arrêtent brutalement alors qu'il n'est pas au courant que Marina Ciampi a disparu. On va retrouver son corps 2 jours plus tard. Et ben pendant ces 2 jours, il ne la contacte plus.
Et là, on a sa trace ADN, vous dites, sur la pince à linge. Hein,
ADN sur la pince à linge, donc les fameux STRY, donc c'est les siens. Et puis, on a surtout sa trace sur le cordon. Parce que c'est quand même curieux. Si vous imaginez que M. Amrani va laisser son ADN dans cet appartement à plusieurs endroits, ça veut dire qu'il n'a pas de gants. Et au moment de serrer le cou de cette femme pour la tuer, de faire 5 tours de cou avec un fil électrique, il ne va pas laisser son ADN. C'est assez curieux.
Ça, on ne trouve aucune trace de l'ADN, effectivement, sur le cordon du sèche-cheveux. Un mot, maître, tout de même, sur la révision que vous allez engager pour ce procès. Comment ça se passe? Quelles sont les démarches que vous entreprenez?
Alors, c'est un travail de longue haleine. On va essayer de travailler sur tous les éléments qu'on peut. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des informations qui pourraient amener à résoudre cette énigme, qui n'en est peut-être pas une. Moi, je considère quand même que Jean-Michel... Et peut-être la personne la plus intéressante de ce dossier. Il y a des éléments qui nous échappent. S'il y a des gens qui ont des informations et qui le connaissent, je suis preneur. Ça m'intéresserait beaucoup. Parce que en réalité, on ne peut pas parler de tout ce qu'il y a dans ce dossier, mais il y a quand même énormément d'éléments très troublants. Par exemple, ce monsieur était marié avec une femme au moment où il était avec Marina. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette femme aussi est morte peu de temps après.
Ça, c'est tout à fait troublant.
Donc, j'en sais rien, je ne sais pas de quoi elle est morte.
C'est peut-être un hasard, il y a beaucoup de hasards apparemment dans cette affaire et beaucoup de circonstances. Un petit mot quand même, maître, techniquement, comment ça se passe une révision? Vraiment?
Alors techniquement, il faut apporter des éléments qui permettent de douter, d'apporter un doute sur la culpabilité de quelqu'un suffisamment pour qu'on ait envie de provoquer un nouveau procès pour rejuger une personne si elle est encore en vie, et j'espère que ce sera le cas pour M. Amrani, pour pouvoir refaire un procès avec ces nouveaux éléments.
Maître Stalla, vous représentez, vous, les parties civiles, les deux familles des deux victimes. On vient d'entendre votre confrère, maître Patrice Reviron. Est-ce que vous êtes surprise, vous, par cette demande de révision?
Je crois malheureusement que c'est dans le droit fil de ce que M. Amrani nous a montré jusque-là. Il ne reconnaît pas les faits et je crois qu'il ne le reconnaîtra jamais. Et je crois qu'il a une psychologie particulière qui avait été parfaitement décrite par les experts qui ne m'étonne pas là-dessus. Je m'y attendais presque.
Qu'en pensent vos clients, les familles? Est-ce qu'elles sont surprises?
Ça va être très difficile pour les deux familles, ça je le sais, mais nous serons toujours à leur côté. En tout cas, il y aura toujours un conseil et un avocat pour leur tenir la main dans ces épreuves. Je pense que c'est une nouvelle fois une épine plantée dans le cœur des victimes, mais ils ne sont plus à ça près aujourd'hui.
Une épine plantée dans le cœur des victimes. On verra donc si la justice accorde la révision, ce qui ouvrirait la voie à un nouveau procès pour Abdelkader Amrani, condamné définitivement et considéré judiciairement comme le tueur à la pince à linge. Merci beaucoup, maître Patrice Reviron, d'avoir été ce soir avec nous dans l'heure du crime. Et aussi merci beaucoup, maître Agnès Talla, d'avoir été au téléphone. Tous les deux invités ce soir de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. C'est un vrai plaisir de partager avec vous chaque soir, 7h, avec vous.